L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, je vous propose de rencontrer encore un contact de Laura. Nous sommes toujours dans le monde de Laura, ici à Bruxelles, comme on dit. Alors ça m'intéressait beaucoup de rencontrer Vincent Madeline, bonjour.
Bonjour.
Parce que toi, Vincent, tu as été un petit peu au cœur des institutions ces dernières années. Tu as été collaborateur du groupe des écologistes au Parlement et petit à petit, tu es devenu, tu sais, c'est toi qui a été un petit peu en haut de cette pyramide des collaborateurs.
Il y a encore beaucoup de monde au-dessus dans la pyramide, mais c'est vrai qu'on était proche du... Bon, voilà, au contact des dossiers, au quotidien législatif au Parlement européen, sur tout ce qui se passait au niveau législatif européen, quoi.
Alors justement, on voit en France, enfin beaucoup de politiques se plaignent des décisions prises à Bruxelles, parfois considérées comme trop écolo, qui empêchent le monde d'avancer. Toi, ton regard, il est quoi de ces dernières années, de ce qui s'est décidé? Est-ce que vraiment on est dans une, on peut le voir comme ça, d'une espèce d'écologie rationnelle qui est là pour gérer un petit peu notre petit bout de continent? Pour faire avancer les choses, on voit que l'Europe se considère peut-être comme un petit peu plus à la pointe, un peu plus normative que les autres. Qu'en est-il? Et ce qui m'intéressait de voir avec toi, c'était cette expérience, ce vécu, comment les choses ont avancé, est-ce qu'elles avancent encore, est-ce qu'elles reculent?
Je pense que pour décrire un peu ce qui se passe au niveau européen, à la fois dans l'Union européenne, enfin à la fois au niveau de l'Union européenne et à la fois dans les États membres qui composent l'Union européenne, il faut remonter... à 2018-2019, et à ce moment-là, ce sont les marches climat. En France, c'est aussi la démission du ministre de l'écologie de l'époque, c'est Greta Thunberg, etc. Et donc on a tout un mouvement social qui existe en faveur de politiques ambitieuses pour lutter contre le changement climatique.
Donc le ministre démissionnaire, c'est Nicolas Hulot.
C'est Nicolas Hulot, ouais. Okay. Voilà.
Et donc là, tu considères que 2019, c'est à peu près, ça doit être ça. 2018-2019, on est dans une période où on a une espèce de climax où les choses se font et avancent bien.
C'est le point de départ d'une période de presque 5 ans pendant laquelle l'Union européenne va mettre en place le Green Deal. Le Green Deal, c'est la promesse d'Ursula von der Leyen en 2019 de faire, en gros, pour aller vite... de l'Union européenne, de l'Europe, un continent écolo, d'avoir ce qu'on appelle, alors il y a beaucoup de novlangues anglophones un peu technocratiques, mais le climate leadership, ce genre de choses, et l'idée de dire voilà, que nous, en Europe, on va faire ce qu'il faut pour l'environnement et plus spécifiquement pour le climat. Ce mouvement 2019, il va y avoir des traductions législatives importantes. On va avoir énormément d'avancées dans la lutte contre le changement climatique au niveau européen, dans les législations européennes de 2019, en gros, à 2023, 2024 à peu près.
Des exemples?
Des exemples, il y a la question de la taxe carbone aux frontières qui a été adoptée, donc, qui est un texte insuffisant mais qui va dans la bonne direction.
Alors c'est quoi? Vas-y, explique en dehors.
Alors l'idée, c'est de dire que quand on va importer certains produits extrêmement polluants depuis l'étranger, donc ça peut être de l'acier ou des choses comme ça, les industriels devront s'acquitter d'une taxe pour compenser le fait qu'ils émettent plus à l'étranger que ce qu'ils auraient émis s'ils avaient fabriqué en Europe. Et donc ça fait partie des options. Il y a un fonds social pour le climat qui a été créé aussi, des fonds de transition pour soutenir les régions européennes qui sont très dépendantes, par exemple, de l'industrie du charbon et de la production d'électricité par le charbon, pour leur permettre d'opérer une transition économique qui permette de ne pas créer de dégâts sociaux en quittant cette économie très carbonée vers une économie décarbonée. J'utilise volontairement le mot carboné-décarboné parce que ça traduit, je crois, le petit hiatus qui peut exister entre les écologistes, dont je fais partie, dont la principale préoccupation n'est pas simplement une question d'émission de carbone dans l'air. En réalité, on peut avoir une société zéro carbone qui serait toujours une société autoritaire, inégalitaire, raciste, mais aussi simplement une société... où l'économie reste la matrice principale, dans le sens où on se poserait pas forcément la question de notre rapport au monde, de l'impact au monde, des rapports sociaux, etc. Bon.
Le meilleur exemple, ce sont les crédits carbone qui permettent de continuer à polluer.
Oui, et dans les crédits carbone, il y a il y a une ambivalence qui est importante. Par exemple, c'est-à-dire que quand parmi les grosses législations du Green Deal, il y a d'autres exemples que je vais donner rapidement pour ne pas les oublier, mais il y a la question du règlement contre la déforestation, il y a la question du devoir de vigilance des multinationales. Il y a eu des vraies avancées, quoi. Il y a la question du budget de l'Union européenne où il y a eu des avancées. Et toutes ces avancées, elles ont une spécificité intéressante, c'est qu'elles vont dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Et en quelque sorte, les écologistes au niveau européen ont passé 4 ans, presque 5 ans, tout le mandat, à dire ces avancées vont dans le bon sens, mais elles sont insuffisantes. Et de là se découle aussi une difficulté de positionnement et de récit, de dire est-ce que nous, on est satisfaits de ce qui se passe ou pas. Et puis, il y a des choses un peu plus, encore plus spécifiques. Par exemple, ce marché d'émissions carbone, on n'est pas fan du marché. On n'est pas fan du marché par d'émissions carbone. Ce système-là, pour nous... n'a pas les avantages d'une législation autorisée, interdire, de plafond maximum, etc. On est sur des mécanismes économiques qui sont censés permettre de limiter l'accroissement des... Bon. Et pour autant, personne dans le camp progressiste au Parlement européen, personne qui s'est réclamé de l'écologie, ne s'est frontalement opposé à la smécha carbone. Pour autant, sur ce truc-là, on s'est abstenu parce que on considérait qu'il y avait une dimension sociale dangereuse dans les modifications qui ont été apportées. Et bien, c'est-à-dire qu'on a étendu le marché des quotas d'émissions au secteur du transport routier et au secteur du bâtiment, et donc notamment du chauffage, par exemple, ces choses-là, ce qui fait, ou du pétrole que vous prenez à la pompe. Et donc, potentiellement...
Il y avait une augmentation des prix pour l'usager, et le plus faible était la principale victime.
Potentiellement, c'est pas forcément le cas, y compris parce que par exemple en France, ça vient s'inscrire dans un schéma de taxation qui existe déjà, donc on n'est pas sûr que ça existe. Potentiellement aussi, parce qu'il y a des mécanismes de limitation de la hausse des prix qui ont été mis en place par la Commission, mais qui ne sont pas des vrais plafonnements, si vous voulez. En tout cas, nous, on a notifié ce risque-là, et au fond, qui est une chose qui a été souvent faite et qui est trop souvent faite, qui est de faire reposer la responsabilité de la transition écologique sur les consommatrices et les consommateurs finaux. Dans une société qui est très inégalitaire, qui est de plus en plus inégalitaire. Et donc, si vous voulez, dans une société égalitaire où tout se passe bien et tout le monde a les mêmes accès, tout le monde a les mêmes moyens, utiliser les revenus comme un moyen de modulation de la possibilité de polluer, c'est déjà idéologiquement un peu discutable, etc. Mais dans une société où les gens émettent d'autant plus qu'en réalité ils sont pauvres...
On le voit avec les voitures, hein, actuellement en France, avec les zones à zéro émission, les plus pauvres sont les plus pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas changer leur voiture, alors que les plus riches peuvent acheter des voitures extrêmement polluantes à la construction, mais électriques, et donc ont toujours accès aux villes.
Alors, les vraiment plus pauvres en France n'ont pas de voiture. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie souvent.
Et, sauf à la campagne.
Je crois que... La statistique, la donnée montre que on n'est pas non plus sur les mêmes niveaux de vie, sur les mêmes considérations d'inégalité. Prendre l'exemple de la région Île-de-France, quand vous êtes un travailleur très pauvre en région Île-de-France, vous levez à 4h du matin pour prendre des bus de nuit avant les premiers RER qui vont mettre 1h30 à vous amener sur votre travail, vous allez revenir, etc. Il y a cette chose-là. Mais bien sûr, évidemment, il y a tout un tas de mécanismes qui font que, d'une façon ou d'une autre, les personnes les plus pauvres payent 2 ou 3 fois la transition écologique. 2 ou 3 fois, pourquoi ? Parce que ce sont les premières victimes des pollutions, parce qu'on habite près des autoroutes, parce qu'on habite près des zones industrielles, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture bio, parce que ce genre de choses. Une deuxième fois, parce qu'on paye. On paye plus cher, parce qu'on est coincé dans ces trappes-là, évidemment. Et puis aussi parce que la transition écologique, elle va se faire... sans associer, sans faire participer à la prise de décision les gens qui, de fait, dans leur statut social, leur quotidien et tout, sont plus éloignés des lieux de pouvoir, des lieux de décision, des lieux d'interaction, etc. Mais en tout cas, la transition, enfin le Green Deal européen n'était pas la transition écologique parfaite. Mais pour autant, c'était aussi de nombreuses avancées qui ont été saluées, qui ont été approuvées par des majorités européennes qui allaient de ce qu'on appelle la gauche de la gauche ou la gauche radicale, etc., donc qui correspond en France à la France insoumise, jusqu'à la droite du Parlement européen, ce qui correspond en France aux Républicains. Et ces avancées-là, elles ont été permises grâce à ce mouvement social de 2018-2019 dont je parlais tout à l'heure. Tout en ayant une majorité relative conservatrice au Parlement européen, tout en ayant une majorité relative conservatrice au Conseil de l'Union européenne, qui est le co-législateur avec le Parlement européen de ce qu'on fait en Europe, tout en ayant une présidente de la Commission européenne qui est conservatrice, qui est issue des conservateurs allemands, on a réussi à faire en Europe, à obtenir énormément d'avancées sur cette question climatique. Et d'ailleurs, moins sur d'autres questions, et si on prend la question de la biodiversité singulièrement par l'angle agricole, en réalité, autant la PAC qui a été adoptée il y a quelques années, alors j'ai oublié les années PAC, mais là on est dans une période où on a adopté une nouvelle PAC il y a quelques années, et cette nouvelle PAC, elle est pas... elle est plus écolo que la précédente, enfin, elle est très 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 loin du compte. Et ce n'est pas une PAC écolo. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que la PAC.
Politique agricole commune, celle qui permet, bah, du fait de la dérégulation et du fait que l'agriculture européenne n'est pas compétitive, hein, par rapport à d'autres, on aide les agriculteurs, y compris sur des piliers de verdissement de leur pratique, pour limiter un peu la casse. Hein, ça a permis. C'est pas ça ? T'as une autre définition ?
C'est un peu ça, mais en réalité, les géants du secteur agricole, qui ne sont pas les amis de l'écologie, évidemment, bien au contraire, sont compétitifs sur les marchés internationaux pour certains. Les éleveurs français, bien sûr, s'opposent au libre-échange, au marché unique, aux accords avec l'Amérique du Sud ou ce genre de choses. Ils et elles ont raison de le faire, mais en réalité, il y a beaucoup de gagnants aussi dans l'agriculture française et... Je crois que c'est ça aussi qui rend le truc un peu difficile, c'est que ces gagnants, ils sont, je crois, moins nombreux, ils ont une agriculture polluante, dévastatrice, et pour autant, ils réussissent à faire leur beurre dans ce système-là. On a une politique agricole commune qui permet de soutenir les agricultures nationales en Europe. Elle est commune, pourquoi ? Parce que le concept de l'Union européenne, c'est qu'on va éviter d'avoir des subventions nationales à telle entreprise, à tel secteur économique, etc., pour créer une situation de concurrence et donc de marché en Europe. C'est une des logiques importantes au cœur de l'UE. C'est évidemment pas une logique à laquelle on adhère beaucoup. Dans ce cadre-là, tout le monde est favorable à l'existence d'une politique agricole commune, à la distribution de ces enveloppes budgétaires qui sont très importantes. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Que la PAC, elle n'est pas du tout écolo. Et cette PAC, elle montre bien qu'en fait, autant il y a eu une ambition européenne forte sur la question climatique, qui est quelque chose qui a été intégré par une partie des élites européennes, par une partie des industriels, parce que tous les industriels ne sont pas idiots, évidemment, ils réalisent bien que, d'une part, y compris en termes de business model, il faut pouvoir s'adapter à ce qui change, mais d'autre part, il y a aussi des humains qui ont des considérations éthiques évidentes. Voilà. Mais sur la question de la biodiversité, on est très très loin du compte en termes au niveau européen, et je dirais même que c'est un angle mort au total. On a adopté des textes sur les énergies renouvelables, qui mettent en danger la biodiversité, certaines zones protégées, etc. Je pense que les auditeurs, auditrices de l'émission ont sûrement entendu parler, mais sur l'agrivoltaïsme, sur le fait de mettre des panneaux photovoltaïques à la place de forêts ou à la place d'espaces agricoles, quand on a besoin d'agriculture paysanne, quand on a besoin de forêts, quand on a besoin d'espaces naturels. Et donc, c'est une forme d'artificialisation des terres qui est aussi dangereuse, qui est aussi nuisible.
Vous êtes pour les énergies renouvelables, mais pas de toutes les façons dont elles peuvent être présentées. On va être plutôt le panneau solaire plutôt dans des zones industrielles, sur des bâtiments industriels, sur des bâtiments en général, sur des autoroutes, enfin des lieux déjà artificialisés, que sur de l'espace agricole.
Les crises environnementales sont multiples, elles se superposent, elles ont des boucles de rétroaction où elles s'entraînent les unes les autres, etc. Donc la crise climatique aggrave la crise de la biodiversité qui elle-même affecte la question climatique, etc. Mais on ne peut pas avoir des sociétés à zéro émission de carbone, carbon neutral, sur une planète morte, ne présente pas d'intérêt. Et c'est difficile. Et la seule énergie qui ne consomme rien, qui ne pollue rien, qui ne mange pas terre, etc., c'est l'énergie qu'on ne consomme pas.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, offre solos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, presse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, presse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Nous sommes de retour avec Vincent Madeline, donc sur son expérience au cœur des institutions européennes ces dernières années, pour avoir son regard. Tu nous en as parlé, on se retrouve au début de ce Green Deal avec quand même une espèce d'alignement des planètes, ou en tout cas une espèce de consensus qui est trouvé au sein des partis politiques de gauche à droite de l'échiquier pour faire quelque chose pour le climat. Tu l'as dit, donc pas forcément pour la planète, pour la biodiversité, pour une agriculture moins polluante, mais en tout cas pour le climat, pour une neutralité carbone. Mais ça, on n'a pas l'impression que ça a marché, cette affaire.
Cette affaire est pas assez, elle est aussi loin que ce que nous on espérait et ce qu'on voulait. C'est en 2023-2024, la droite européenne change complètement pied. Et donc ça, c'est des décisions prises par des leaders politiques qu'on connaît, qui se présentent aux élections. Donc c'est Manfred Weber qui est chef des conservateurs européens et qui est un conservateur allemand influent. Ça va être le premier ministre belge qui était un libéral, mais aussi le président de la République en France, Macron, qui parlait de pause réglementaire ou de ce genre de conneries. Ça va être dans des pays d'Europe centrale et orientale, dans certains de ces États, des oppositions fortes à tout un tas de mesures écolo dans des discours populistes. Ça va être évidemment l'élection de Giorgia Meloni en Italie. L'irrationalité totale de ces décisions et l'inconséquence complète des discours populistes mensongers adoptés par la droite européenne, mais même par la droite française en réalité, sur ces questions environnementales.
Ah tiens, qu'elle a un petit florilège.
Non, mais j'ai même pas de. Mais c'est Macron sur qui aurait pu prédire sur les inondations ou sur les catastrophes. C'est tout un discours qui fait croire que c'est la faute des écologistes s'il y a des feux de forêt en France, par exemple. C'est des choses qu'on a entendues. Et donc, on va avoir soit des contre-vérités, soit des approximations, soit des contre-vérités, des mensonges délibérés dans un truc d'un monde qui ne veut pas changer, dans un monde qui ne veut pas sortir de là où il est. Et ce qui va se passer à ce moment-là est considérable, parce que les mêmes personnes qui ont plaidé pour le Green Deal, donc Ursula von der Leyen par exemple, la présidente de la Commission européenne, vont pivoter complètement et vont mettre des coups d'arrêt à ce Green Deal. Et donc, depuis 2024, non seulement les majorités ont changé au Parlement européen, puisque avant, si on allait de la gauche jusqu'à aux libéraux, on avait une majorité contre la droite conservatrice, y compris sur les amendements, donc par exemple, sur les objectifs de réduction carbone 2032-2034, paf, on pouvait gagner ces trucs-là, et après la droite votait avec nous pour l'ambition environnementale affichée. Mais là aujourd'hui, la droite construit des alliances objectives avec l'extrême droite et met en minorité le reste du bloc européen, pas seulement le bloc progressiste, y compris les libéraux européens, y compris les macronistes, qui honnêtement sont pas des hippies, des croissants, le nez en l'air, les cheveux au vent. On parle de gens qui prétendent être dans un prétendu cercle de la raison et je sais pas quoi, et les lois de l'économie, vous comprenez. Donc y compris des gens qui sont capables de la plus grande bullshit possible sur la question, sur toutes ces questions-là, se retrouvent doublés par la droite sur l'autoroute du populisme anti-écolo, par une droite européenne qui fait alliance avec l'extrême droite pour casser tout ce qui a été fait. J'ai travaillé, et des collègues à moi ont travaillé, etc., sur tel texte sur le devoir de vigilance, tel texte sur les taxes carbone, tel texte sur les pollutions de l'industrie automobile. Et en fait, aujourd'hui, on a législations qui ont pris le terme d'omnibus, qui consiste à tout défaire ce qu'on a fait. Et donc, les faibles avancées, les avancées insuffisantes, comme je disais tout à l'heure, du mandat 2019-2024, aujourd'hui, l'Union européenne est en train de les casser. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique, en quelque sorte, s'est retournée dans un récit politique, médiatique, très hostile à l'écologie.
C'est l'opinion est faite par des grands groupes, et ces grands groupes répondent à une forme de lobbyisme. Donc ça protège quoi ? Ça protège les industries déjà en place, ça leur permet de faire plus de bénéfices, c'est quoi ?
Pour maintenir cette société-là, il faut nécessairement transformer nos façons de produire, nos façons de consommer. C'est indispensable. Mais en réalité, une partie, je pense, soit des élites politiques ou économiques, mais aussi une partie de la population pense sincèrement que si on va modifier nos façons de produire, de consommer, de se déplacer, etc., on va aussi modifier en profondeur la société pour le pire. Là, l'opportunisme de certaines élites économiques, l'irresponsabilité de certains dirigeants politiques vient rencontrer les peurs, les doutes d'une partie de la population. Et c'est ça qui crée ce cocktail.
Et les alimenter. Hein. Franchement, en France, quand on voit certaines chaînes comme CNews, hein, on peut la nommer, franchement, c'est surtout les alimenter. C'est-à-dire, parfois, même si elles n'existaient pas, on les crée, on alimente un petit substrat, peut-être, mais enfin, on l'arrose à grands coups d'engrais.
On en fait le centre et le cœur du débat public sur des sujets qui, je crois, au fond, ne sont pas les préoccupations les plus importantes. Sur CNews, par exemple, en plus d'être anti-écolo, CNews est une chaîne raciste. Et donc, en fait, si on regarde CNews, on va penser que la société française est de plus en plus raciste, par exemple. Mais ce que montrent les études des universitaires, je pense aux travaux de Vincent Tibéri, par exemple, c'est qu'en réalité, la population n'est pas plus raciste qu'avant. Au contraire, les gens sont globalement de plus en plus progressistes. Mais CNews vient offrir une sorte de loupe déformante sur une partie de la société. Et via CNews, au fond, ce sont une certaine élite qui vient parler à une autre élite pour essayer de la convaincre d'un pays réel qui est en réalité un pays qu'il fantasme complètement. Il y a d'autres choses qui alimentent aussi le ressentiment, c'est par exemple ce qu'a fait l'Union européenne par moment, mais ce qu'a fait la France par moment, c'est le cas de la proposition de taxe qui a mené aux Gilets jaunes, c'est le cas de ce qui avait mené au Bonnet rouge aussi avant, c'est le cas d'une partie des mesures européennes, qui est de prendre des mesures écolo qui vont avoir un coût social, qui vont avoir un impact social, un impact sur les plus pauvres. Et ça, c'est irresponsable. En faisant ça, ce que font nos dirigeants, c'est qu'ils vont opposer les mesures environnementales avec les mesures sociales.
On pense que l'écologie va forcément avoir un impact. Mais c'est souvent l'écologie faite par la droite, on va dire, plus que l'écologie faite par les écologistes tels qu'ils la souhaitent. C'est ça ?
Les mesures environnementales de la droite, ça n'est pas l'écologie. L'écologie, ce sont des mesures environnementales avec une prise en compte importante du social et de la question sociale, constamment. Il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, il n'y a pas d'écologie sans justice fiscale. L'écologie, c'est la question de la répartition des ressources et des richesses en réalité. Cette question-là, c'est évidemment une question politique et évidemment les écologistes ont un rapport, une vision de gauche de cette question de la répartition des ressources et des richesses. Il n'y a pas de monde dans lequel il y a une sorte de paix environnementale, de rapport où le vivant peut vivre, où on peut nous s'épanouir au sein du vivant, dans lequel la moitié de la planète est possédée par 5 ou 1% de ses habitants. Ça n'a pas de sens en quelque sorte.
Et ça, ce discours-là, les écologistes à Bruxelles, ici, ils arrivent à le... Ils se heurtent à quoi? Ils se heurtent au néolibéralisme ambiant et qui est la pensée dominante et indéboulonnable.
Je crois que ce qu'on voit vraiment en ce moment, c'est une vague populiste sur l'Europe. Et pour être précis, on a au Parlement européen aujourd'hui des difficultés. Enfin, on n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité possible de droite et d'extrême droite. Quel est le résultat des urnes au niveau européen? Et qu'au Conseil de l'Union européenne, qui est donc le co-législateur, on a de plus en plus de gouvernements d'extrême droite, ou de droite radicale, ou de droite populiste.
Bientôt la France.
Et malheureusement, peut-être bientôt la France, même si on garde espoir et on continue à militer. Parce qu'on a vu en 2024, au second tour de l'élection législative, qu'il y avait toujours une majorité de Françaises et de Français qui étaient prêts à se faire du mal, hein, à se faire du mal pour éviter d'avoir Jordan Bardella comme Premier ministre. C'était pas évident, je pense, pour... beaucoup de gens, dont moi, d'aller voter pour des candidats Renaissance au second tour, de la même façon que c'était pas évident pour beaucoup de gens qui ont le droit de pas être de gauche ou quoi, d'aller voter pour un candidat ou une candidate issue du NFP. Les électrices et les électeurs l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils sont convaincus que le plus grand danger qui nous guette, c'est celui de l'extrême droite au pouvoir. J'ai le sentiment que l'irresponsabilité de Macron en ce moment nous y mène tout de même, que les blocages politiques nous y mènent. En tout cas, au niveau européen, on a aujourd'hui des représentants du peuple et des représentants des gouvernements qui sont issus de l'extrême droite. Et donc, on se heurte non seulement à ces dogmes-là, mais on est aussi dans un moment, dans une phase particulière, où ces élites politiques, industrielles, etc., ont réussi à se mettre en situation de légitimité pour agir sur ces sujets-là. Et je crois que la possibilité qu'on a d'agir et notre marge de manœuvre, elle ne se situe évidemment pas dans les institutions. On ne va pas aller convaincre von der Leyen ou Manfred Weber en comptant sur leur bonne foi pour qu'ils comprennent que oui, la disparition des coraux, parce que c'était un peu l'actualité de la semaine dernière, de dire que bah, là, ça y est, c'est cette barrière-là, que les récifs coralliens, c'était foutu et c'est, je sais pas quoi, indispensable à peu près de la moitié de la vie de la biomasse sous-marine. Enfin, donc le rapport de force politique... dans les institutions européennes, il est défavorable si on reste en interne. Mais il peut être renversé. Et comment est-ce qu'il peut être renversé? Par l'existence, par la manifestation d'un mouvement social, d'un mouvement d'opinion convaincu que les solutions écologistes sont des bonnes solutions. Ça peut être des sommes d'actions locales, ça peut être des sommes de mobilisation locale, ça peut être, on a eu beaucoup de marches climat en 2018-2019, peut-être que le mode d'emploi n'est pas le bon, mais en tout cas, il y a en réalité, je crois, dans l'opinion, dans les acteurs, une majorité de personnes qui savent que ces transitions-là, il faut les faire, qui savent qu'il faut vivre différemment, qui savent que les gens aujourd'hui savent que leur santé est en danger du fait des polluants dans l'atmosphère, des polluants dans les eaux, des polluants dans les sols, des polluants dans les aliments. Tout le temps, partout, on est pollué. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de rendre ces modifications-là acceptables, désirables. Mais c'est aussi de montrer qu'il y a une attente. Et cette attente-là, aujourd'hui, en tout cas, elle manque pour... Enfin, la manifestation de cette attente manque aujourd'hui pour être capable de re-renverser le front au niveau européen et de reprendre une marche avant souhaitable.
Un mot de la fin, peut-être ?
Le mot de la fin, oui, c'est de pas... Je vais revenir sur cette élection de 2024 en France, c'est de ne pas perdre espoir, parce que l'actualité, à titre personnel, moi je suis complètement déprimé par ce qui se passe, je suis pas du tout éco-anxieux ou quoi, mais en tout cas, il y a des jours, j'ai plus vraiment l'énergie de continuer comme ça, et la difficulté, la machine européenne, en quelque sorte, peut être éreintante pour les gens qui y sont, mais de la même façon que c'est éreintant de se battre et c'est éreintant d'essayer de changer les choses, mais pour autant, je suis pas du tout résigné. Et l'Europe, ça, c'est une politique, c'est vraiment une arène où les choses se passent. Et donc, les citoyennes, les citoyens européens ont de l'influence sur ce qui se passe au niveau européen. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pas des décisions qui sont prises nulle part. De la même façon qu'on a de l'influence sur ce qui se passe à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale, partout ailleurs, à votre conseil général, à votre conseil communal, tout ça. Et donc, en fait, il faut, je crois...
Pas se sentir dépossédé, la chose publique nous appartient.
La chose publique nous appartient et il est toujours temps d'agir. C'est Corinne Morel-Darleux qui disait que chaque papillon qu'elle voyait dans son jardin était une victoire. Et donc essayons de gagner, de garder encore quelques-unes de ces victoires.
Très bien, merci beaucoup Vincent Madeline. Un livre, quelque chose qui t'a, un conseil lecture, un conseil site internet, un conseil quelque chose pour les auditeurs?
Oui, j'ai beaucoup aimé En cabané de Gabrielle Filtolchiba, qui est une autrice canadienne avec des ascendances autochtones des Premières Nations d'Amérique du Nord, des populations natives d'Amérique du Nord. Et c'est vraiment de l'écoféminisme. C'est vraiment une approche, un regard féministe sur notre rapport au monde et à la nature. C'est très enrichissant. C'est aussi un peu reposant et dépaysant. Et c'est très poétique.
Merci Vincent Madeline. Au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.